Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Chers auditeurs, une chronique du Pays Toulousain qui aujourd'hui va nous amener à une quarantaine de kilomètres au sud de Toulouse, le château de Saint-Élix, et nous sommes toujours en cette série Demeures et Familles en compagnie d'Aline Thomazin et de notre expert Michel de Rivoire, qui nous fait remonter le fil du temps, les généalogies, les croisements de généalogie et qui nous fait visiter ces châteaux et leurs demeures en ville, les hôtels particuliers.
Alors, expert passionné, parce que j'espère que c'est une passion que vous partagez au fur et à mesure de nos chroniques.
Les experts sont toujours passionnés.
Oui.
Surtout par le patrimoine.
Plus passionné que talentueux, je pense. En tout cas, faisons valoir ce troisième superbe château du Pays Toulousain de l'époque Renaissance, toujours intact, dans le sens où il a les mêmes proportions et la même apparence qu'à sa construction, mais il est passé par beaucoup de tourments et de bien des vicissitudes, nous allons le voir. Donc, il a été magnifiquement restauré au XXe siècle, mais cependant, il témoigne encore de la splendeur du projet bâti paysager initial. C'est un château de plaine, la chaîne des Pyrénées en fond, en spectacle. Donc, c'est, pour faire très court et caricatural, Chambord au pied des Pyrénées. Et vous ne croyez pas si bien entendre, puisque François Ier y serait venu, ou en tout cas avait des accointances avec le propriétaire constructeur. Allons le voir. Donc, c'est un modèle qui sera beaucoup imité par la suite au pied des Pyrénées et tout le long de la chaîne. Je pense par exemple à Valmirande, qui est près de Montrégeau. Donc, ce château de Saint-Élix donne une idée des moyens illimités dont disposaient les commanditaires, qui étaient des parlementaires fraîchement anoblis. Et ceux de Saint-Élix sont les potiers de la terrasse, qui étaient des précurseurs tout à fait fin 15e, début 16e, avant même ce qu'on appelait la Renaissance toulousaine, de ces belles propriétés aux vastes proportions dans la haute vallée de la Garonne, puisqu'ils étaient seigneurs de la terrasse, sur le territoire de la commune de Carbonne, qui aujourd'hui n'existe plus, même pas à l'état de trace, mais qui, dans les archives, révèle une chose exceptionnelle, comparable, effectivement, au château de la Loire, de l'époque. Et puis, quelle galerie de personnages, nous allons le voir, je l'espère. Il n'y a pas que des magistrats, vous allez bien vous en rendre compte. Donc, ce château est situé près de Carbonne, nous l'avons dit, rive gauche de la Garonne, et il est situé dans l'ancien comté de Comminges, aujourd'hui on dit le Volvest, mais c'est l'ancien Comminges. Donc il avait aussi été à la charnière de deux provinces, même de trois provinces, puisque la Gascogne démarre là. Si vous prenez la sortie d'autoroute de Saint-Élix, vous avez la pyramide qui témoigne, n'est-ce pas, de la limite de ces deux provinces. Le site possède toutes les qualités pour faire un très très beau parc, puisqu'on a la rivière La Louge, plusieurs petits ruisseaux, des canaux, de l'eau en abondance, des terres riches, bref, un territoire à cheval sur la première et la deuxième terrasse de la Garonne, donc de la possibilité de déployer des perspectives paysagères, bref, un magnifique jardin dont il ne reste pratiquement rien aujourd'hui, si ce n'est une magnifique orangerie aux dimensions inimaginables et qui, au XVIIIe siècle, a abrité une distillerie de fleurs d'oranger. Chose qui était extrêmement prisée.
Ah oui, pour les orangers élevés dans l'oranger.
Mais oui. Et magnifique. Autre chose que des orangers, nous allons voir également, qui se trouve aujourd'hui une statue qui est hébergé dans les collections du musée des Augustins. Oui. Mais j'anticipe sur les propriétaires.
Il n'y avait pas de construction sur ce qui a été acheté.
Non, c'est une nouveau. Absolument.
Il
y a Saint-Élix.
Il n'y avait rien.
Non. D'ailleurs, la commune a repris Saint-Élix, le château.
Oui,
On est en fait à l'Avenanet de Comminges. Donc et Lafitte Vigorda. Donc la commune c'était une petite paroisse. Tandis que Pierre Potier de la Terrasse, donc le constructeur, lui va décider, et le village finalement va s'organiser autour du château, va décider de l'architecture des lieux. Nous l'avons dit, il est proche de François Ier, puisqu'il est secrétaire et notaire de ce roi de France, premier Valois. Il est maître des requêtes, puis il sera également président du Parlement de Toulouse. Ce nom de famille prestigieux à l'époque, Potier de la Terrasse, est mêlé de près ou de loin à toutes les généalogies du pays qui compte. Il brille au château de la Terrasse, nous l'avons dit. Et sur les ruines d'un pavillon de chasse, vous me demandiez, Aline, à l'instant,
oui.
Un pavillon de chasse, on n'a absolument aucune archive, mais on sait que François Ier, à Chambord, entre autres, ça donnait à la chasse aux cerfs, et ce qui explique qu'il y ait toutes ces trophées au mur dans le château.
Oui.
Et surtout un bestiaire, on peut le dire, animalier, en pierre.
Et donc, ce château, il est construit ex nihilo sur un espace vierge. Et l'intention, c'est d'en faire un château de plaisance. Est-ce qu'on retrouve les mêmes tentations de protection? On est à l'époque des guerres de religion. Est-ce que ça va influer?
On est même avant un petit peu. 1540-48, c'est pas c'est vraiment un château de frontières. Je n'ai pas tous les éléments pour le dire deux minutes.
Ça
même
n'a pas encore commencé.
Mais le Comminges vient d'être rattaché à la couronne. Mm. La Gascogne est à peine apaisée de toutes ces troubles avec les Anglais et tout ça. Donc, on est encore dans un modèle défensif. Pareil, on retrouve un château à plan massé, c'est-à-dire très compact. 4 tours d'angle. Elles ont été restaurées relativement récemment, mais on avait des poivrières, si vous voulez,
qui étaient
forme d'oignon. Je ne connais pas le terme exact.
Vous
me comprenez. Les tours ont d'ailleurs été rasées à la Révolution française. Mais ce plan massé a la particulier d'être un carré en île, c'est-à-dire vous avez le château proprement dit, avec ses défenses rapprochées, et puis vous avez de l'eau autour, et c'est ce qu'on appelle un carré en île. Les douves, c'est vraiment l'eau qui baigne, si vous voulez, la construction, les fondations. C'est davantage. L'eau est organisée pour faire une protection. Et on passe avec des ponts, à l'époque, des ponts-levis, et qui ont été transformés par la suite. Bon.
On est avant Richelieu qui va justement abolir tout ce qui a de caractère défensif dans les châteaux.
Sans doute, oui, mais on est un siècle après, mais pas tout à fait. Mais on sait par les beaux, parce que les plans étaient dessinés par un architecte toulousain moins célèbre que Bachelier, qui nous a occupés pendant deux chroniques jusqu'ici. Mais c'est quand même celui qui a construit le donjon du Capitole.
Ah oui.
Et donc, il y a des similitudes architectoniques. Il s'appelle Laurent Clary, cet architecte toulousain. La construction elle-même est très très bien documentée puisqu'il y a de nombreux bois à besogne qui ont été étudiés, et ces baux révèlent par le mieux du détail les marchés passés avec les maîtres d'œuvre, sculpteurs, charpentiers, maçons, plombiers, couvreurs, maîtres verriers, tailleurs de pierre. Bon, à l'époque c'est un exploit. L'escalier monumental est logé de côté par rapport à la galerie centrale qui est monumentale également, ce qui est assez rare finalement. En général, à une époque assez précoce dans ce domaine, le bel escalier est montré et c'est la pièce maîtresse de la construction.
Oui, mais le nombre des baux à besogne, il est vraiment en rapport avec la situation de la famille. C'est-à-dire que...
Vous pouvez donner.
C'est un milieu qui est proche du droit et on a recours à l'écrit pour le déroulement des travaux.
Et tant mieux pour nous, pour ceux qui s'intéressent... au patrimoine, ce sont des sources incomparables.
On est plus dans l'architecture savante, donc il faut régler tous les...
Alors cette architecture savante se complète de, nous l'avons dit, d'un bestiaire, mais d'ornements qui ont la plupart disparu, mais donc qui sont assez bien documentés. Et on a en particulier des lions extraordinaires en terre cuite dans la cour d'honneur. Bon, disparu, des grilles interminables, mais aussi une salamandre.
Ah oui, c'est
qui
François
Ier. Un clin de voir à l'île. Je vous ai tendu la.
La description que vous faites, Michel, qui est quelque chose qui. C'est vraiment fantastique, hein, ça fait rêver, on le voit, ce château avec tous ses ornements. Il est un peu plus triste aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est produit? Il a été abandonné pendant une grande période. Il a été, je crois, aussi un petit peu pillé.
Et il a brûlé, surtout.
Et il a brûlé.
Voilà.
Il a brûlé, mais pendant la guerre
39-45. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que...
Les combles ont brûlé.
Si vous voulez survoler l'occupation et la dévolution de cette belle propriété, nous allons arriver à ce drame du XXe siècle. On retrouve un peu les schémas classiques. C'est-à-dire la famille ne le garde pas plus de 3 générations.
Ah oui, voilà. Oui, oui. Oui, ça paraît être quand même une... Une séquence, ça.
Oui, parce qu'il n'y habite pas. Enfin, c'est une sorte de revenu, d'apparat, certes, pour, quand il le faut. Mais ce n'est pas une occupation...
C'est pas lucratif.
Lucratif, absolument. Oui, bien sûr. Et donc, il y a un sursaut, vous allez voir, avec le personnage que je vais vous citer, qui n'est autre que le marquis de Montespan, Antoine Arnaud de Pardaillan.
Oui.
Voilà. C'est le cocu royal, vous savez.
Il a épousé Madame de Montespan.
Bon, ça d'autre chose. Il est richissime, lui et son fils, le duc d'Antin, sont richissimes. Ils vont récupérer finalement Saint-Élix, parce que c'est une superbe demeure qui n'a pas d'équivalent. Ils vont l'agrémenter, c'est-à-dire lui qui va construire la somptueuse orangerie et les écuries. Mais ils ont tellement d'autres choses partout. Le marquisat de Montespan, c'est le quart du Comminges. Bon. Donc, après le duc d'Antin, bah, ils s'en désintéressent parce que c'était peut-être un caprice, je n'en sais rien. Il y aura une brève parenthèse avec l'archevêque Jacob. Il est resté célèbre dans les annales toulousaines parce que c'est lui qui a fait écrire l'histoire du Languedoc par 2 bénédictins qui sont
Don de Vic et Vesette.
Et Don Vesette, bien sûr. Et cette parenthèse s'achève avec le 3 générations qui sont les barons Ledesmé. Sont connus comme ça. En fait, ils sont barons de Saint-Élix, mais ces messieurs Ledesmé sont pas des parlementaires, mais des marchands, des commerçants enrichis et qui sont heureux de pouvoir visiter cette
Et donc, plus proche propriété. De nous, c'est un château qui a été, je crois, à un moment donné restauré par quelqu'un, d'ailleurs, qui l'a fait avec beaucoup, beaucoup d'attention et de scrupules.
Oui.
Et puis, c'est un château qu'il a essayé de vendre, je crois, ce qui s'est mal passé parce qu'il
en voulait beaucoup d'argent.
Il en voulait beaucoup. Et puis, bon, et finalement, il a été vendu parce que ce qu'on peut souhaiter, c'est quand même une
En 2004, vie. En 2024, il y a eu un acquéreur.
En 2024, donc c'est très récent.
Oui, c'était tout récent.
Eh bien, espérons que cette
et
nouvelle situation...
On a eu la chance, surtout au moment de la vente, de pouvoir visiter toutes les parties.
Ah oui.
Ça a été ouvert au public largement, grâce à une bonne communication.
Bon, et bien espérons qu'une nouvelle vie plus agréable et plus pérenne pour ce très beau château.